Voici maintenant le sommaire complet de cette rencontre. Le Canadien revient de Vegas avec une égalité de 1-1. La mission a été accomplie par le Canadien de Montréal. Le troisième match, cette série s'amène maintenant à Montréal. Mais au cours de la journée du match, une nouvelle est venue perturber l'équipe montréalaise. L'entraîneur Dominique Ducharme teste positif à la COVID dans un test qui avait été effectué hier à Vegas avant le départ de l'équipe. On croit bien qu'il s'agit d'un test irrégulier ou d'un faux positif. On lui fait passer un deuxième test et plus tard, en après-midi, journée de match, l'entraîneur du Canadien apprendra qu'il devra rester chez lui et aider ses adjoints à distance puisqu'il est atteint de la COVID-19. Il ne pourra poursuivre le parcours avec ses hommes. L'équipe est remise dans les mains de son adjoint Luke Richardson et Alex Burrows et on amène l'instructeur des gardiens Sean Burke également derrière le banc. En première période, je ne sais pas si c'est la présence de son entraîneur des gardiens tout près de lui, mais Carey Price est impérial. C'est un bombardement en règle vers son filet. Il va réaliser plusieurs arrêts, gardant son équipe dans le match et surtout au pointage de 0-0 après 20 minutes de jeu. Au cours de la deuxième période, le premier but du match sera réussi par Nicolas Roy. Nicolas Roy va couper une passe qui est faite accidentellement par Staal devant son propre filet. Roy n'a qu'à tirer sans aide. Il porte le compte 1-0 à 3 minutes 16 de la première période. Un but fort important par la suite alors que Nick Suzuki, juste avant, avait été violemment frappé au centre de la patinoire par le défenseur McNabb. Comment il a pu ne pas se blesser là-dessus, je ne sais trop, mais il ne s'est pas blessé, une bonne nouvelle. Quelques instants après, il réplique de la meilleure façon possible. Il va faire une super passe à Cole Caulfield qui va s'amener seul devant le gardien Fleury pour le battre. C'est son deuxième but dans la série face aux Knights. 38 secondes plus tard, à 3:54, le compte est porté 1-1. À la fin de la deuxième période, le Canadien va rentrer au vestiaire grâce encore à plusieurs arrêts consécutifs de Carey Price qui leur permettront d'espérer en troisième. Pietrangelo connaît de bonnes séries et particulièrement contre le Canadien, il va marquer un troisième but en deux matchs pour distancer ses adversaires. Une passe à Nozek à 2 minutes 22 de la troisième période. Il portera le compte 2-1. Les Golden Knights vont bien protéger cette avance jusqu'à la fin de la troisième période. Ils pensent bien pouvoir tenir le coup pour 60 minutes. Alors qu'une rondelle est rejetée dans le fond du territoire offensif, un jeu de routine en principe pour Marc-André Fleury. Il sort de son filet, s'en va derrière. Un peu nonchalamment peut-être, il touche la rondelle avec son bâton. Elle dévie entre ses jambières. Il en perd possession. Elle revient devant son but, mais lui, il n'y est pas. Et Josh Anderson pousse le disque dans une cage déserte. Sans aide, Anderson à 18-05 porte le compte 2-2 et le débat s'en va en prolongation. Au dernier tiers de cette première période de prolongation, encore les mêmes acteurs. Kotkaniemi rejoint Byron. Byron s'amène à 2-1. Il va servir une superbe passe à Josh Anderson qui avait créé l'égalité. Et cette fois-ci, avec son deuxième du match, troisième des séries, donne la victoire aux Canadiens à 12 minutes 53 de la première période de prolongation. Les tirs au but par Montréal, 3 en première, 5 en deuxième, 13 en troisième et 6 en prolongation. 27 lancés sur Marc-André Fleury. Il en était à son 15e match en série. Il encaisse une première défaite en prolongation. C'est 6 défaites au total pour lui depuis le début des séries. Pour les Golden Knights, c'est 16 tirs en première, 13 en deuxième, 10 en troisième et 5 en prolongation. 45 lancés sur Carey Price, qui a été la grande vedette du match de ce soir. Price, qui a bloqué 43 de ses rondelles pour permettre à son équipe d'espérer cette victoire. 14e sortie de Price en série. Il va chercher une très précieuse 10e victoire. Les trois étoiles de la rencontre, Josh Anderson avec le but égalisateur et le but de la victoire. La deuxième étoile au défenseur Alex Pietrangelo, qui a été encore une fois l'un des meilleurs de son équipe avec un but. Et le joueur du match, sans contredit, le gardien de but Carey Price, le joueur le plus utile du Canadien depuis le début de ces séries, avec 43 arrêts. La marque finale, ce soir, au Centre Bell, le Canadien l'emporte. En première période de prolongation, 3-2 la marque finale sur les Golden Knights de Las Vegas et prend les devants 2-1 dans cette série 4-7 demi-finale de la Coupe Stanley. Notre prochain rendez-vous, c'est à ne pas manquer. C'est dimanche soir, émission d'avant-match dès 19h30 au réseau Cogeco alors que le Canadien se frottera de nouveau aux Golden Knights pour ce match numéro 4. Nous irons dans quelques instants au vestiaire, en fait tout près du vestiaire de l'équipe du Canadien pour entendre les premiers commentaires d'après-match, alors que Jérémy Rainville est en studio avec nous en compagnie de Danny Dubé ici sur la passerelle.
Messieurs, c'est incroyable.
Mais comment ils ont pu réussir encore ça, Jérémy Rainville et Danny Dubé? Comment cette équipe réussit tout le temps à passer à travers?
Messieurs, je veux juste commencer écoute, c'est inexplicable ce qui s'est passé là ce soir. C'est Carey Price qui a été sensationnel. C'est de l'opportunisme, c'est du momentum, c'est la chance qu'on se crée en continuant de travailler, mais clairement, écoute, le Canadien, il y a quelque chose qui se passe avec cette équipe-là. On le voit.
Savez ce qui est arrivé ici ce soir? C'est la reprise du match numéro 5 en 2010, ici même au Centre Bell, quand Jaroslav Halak avait arrêté 54 rondelles pour permettre aux Canadiens de se ramener dans cette série-là. Ouais, c'est la reprise de ce match-là.
C'est ça. C'est exactement ça, Martin.
C'est la reprise exacte de ce match-là.
Copier-coller.
Oui.
Non, c'est... Écoute, mais...
J'ai dit le cinquième, mais c'était le sixième.
Sixième, oui.
Merci. Mais pour provoquer un match ultime.
C'est ça. Mais la... Écoute, je ne sais pas trop ce qui va animer les réflexions des entraîneurs des Golden Knights.
Est-ce qu'on va changer de gardien?
Moi, je pense que oui.
Parce que là, la seule affaire que tu peux faire, c'est de limiter... Écoute, le Canadien n'a pas été dangereux. Là. Et en prolongation, oui. Ça, je veux le dire. Là. En prolongation, oui. Puis Marc-André fait de bons arrêts. Ouais. Mais je reviens sur une notion extrêmement importante. Puis c'est une chose qu'on a discuté souvent, Martin et moi. Moi, quand je regarde les gardiens en série, un bon gardien ne donne pas de but facile. C'est tout. Tu sais, tu vas en donner des buts, là, si tu ne donnes pas de but facile. Puis Marc-André Fleury, c'est un bon gardien. Là. Mais ça vient le hanter en série. Le fameux... En tout cas, c'est pire contre le Canadien, je le sais, là. Mais ça écoute, ça a donné de la vie au Canadien qui était...
Complètement.
Écoute, c'était un match
horrible. Il y avait un genou au sol.
C'était un match
horrible.
Il y
avait un genou au sol.
Il n'y avait pas d'énergie. Il se passait rien. Mais toutes les fois qu'il entrait dans la zone, il devait voir, comme nous, là, que le gardien n'était pas en contrôle. Il en profitait, c'est tout.
Ils sont mis à placer la rondelle près de ses pieds, un peu partout.
Exactement.
Là, sur un jeu de routine, ils ont eu le droit à une période de prolongation.
Ben oui. Puis là, écoute, c'est sûr que si tu sais que t'es en avant dans l'affaire parce que l'adversaire est ébranlé, t'en profites pour presser. Honnêtement, je pensais que... je regardais, puis l'arbitre a fait signe, OK, il n'y a pas d'hors-jeu. Là, on est en fin de match. Est-ce que l'entraîneur a quand même le droit de faire appel? Moi, j'ai été surpris qu'il n'insiste pas.
Ben, en tout cas, il y a une chose qui est sûre.
Probablement qu'il a vérifié. Puis
c'est ça. Il n'y avait peut-être pas matière à appel. Puis les arbitres n'ont pas pris de temps à donner cette décision-là.
Non.
Et pour les gens qui n'ont pas vu l'image, là, ça valait toute la peine qui s'est donnée sur cette glace-là ce soir.
C'est sûr.
Parce que quand il y a eu la célébration au centre de la glace des joueurs du Canadien, là, après ça, il y a eu les discussions entre les arbitres. On a confirmé le but. Les joueurs du Canadien ont célébré un petit peu, sont rentrés calmement vers le banc et Corey Perry est sorti de la clinique. Il avait le visage encore en sang d'avoir été atteint au visage par
avec
un bâton
points.
Où il aurait dû avoir une pénalité. Puis là, il est arrivé avec le visage en sang pour accueillir ses coéquipiers, leur donner la main. Parce que probablement que lui a vu ça de la clinique,
ce but-là. Ben oui. Écoute, ça va pas de bon sens.
Ce soir, Jérémy et Danny, c'est un but en prolongation qui va faire oublier une performance médiocre de deux arbitres, Dan O'Rourke et Chris Lee.
Non, ça n'a pas été facile pour eux. Mais tu sais, si on, mettons en temps réglementaire, tu dis Vegas domine, tu sais, le Canadien court après, tente de provoquer des pénalités, je peux comprendre. Mais cette pénalité-là, de bâton au visage, quand ça saigne,
c'est un automatisme.
Tu sais, je veux dire, ça, c'est pas compliqué, là. Tu le vois.
Exact. C'est un no-brainer, comme ils disent.
Puis l'arbitre est à côté, là. Il ne peut pas ne pas l'avoir vu, là.
Mais non.
C'est impossible.
Mais non.
Il y avait 3 500 personnes ici qui l'ont toutes vu.
Quelle histoire quand même. Et juste vous mentionner, messieurs, quand j'ai quitté entre la deuxième et la troisième pour me diriger vers le studio ici, vous savez où on passe en arrière, là, où il y a l'entrée des médias, on passe par la porte de garage. Oui. Oui. Et j'entendais les gens devant le Centre Bell chanter le « Olé, olé, olé ». Ce soir, il y a foule dans la rue, oui, dans l'avenue des Canadiens.
Ouais, comme ce fut le cas à la fin de la série, exact, contre les Jets de Winnipeg. Là,
et pour tous les partisans du Canadien, je suis extrêmement heureux ce soir. C'était un match extrêmement difficile pour le Canadien, mais on trouve le moyen par une chance, par une magie. Danny t'a dit le mot magie, mais par une magie de gagner ce match-là en prolongation, vraiment. Oui. Écoute, il y a quelque chose de spécial qui se passe présentement.
Oh oui. Très spécial.
Oui, il y a un petit peu de magie. Puis souvent, ça arrive ici au Centre Bell. C'est arrivé là-bas à Vegas. Puis là, c'est deux victoires consécutives, messieurs.
Oui.
C'est pour ça que je reviens avec l'histoire du gardien. Mais non seulement le gardien, là, il y avait eu des changements de trio. Encore une fois, la perte du joueur de centre Stephenson qui déstabilise la ligne de centre de cette équipe-là.
Oui.
Et on n'est pas parvenu parce qu'on a recolmaté les trios encore. On a pris Nozek, on l'a envoyé avec Pacioretty et Stone. Depuis la blessure de Stephenson, on n'est pas parvenu à trouver un centre steady, comme on dit en bon québécois, pour faire fonctionner Pacioretty et Stone. Et ça, c'est encore un autre fait marquant, là. Parce qu'on est à quelques heures du quatrième match, puis les deux meilleurs joueurs offensifs de cette équipe-là, Stone et Pacioretty, n'ont rien produit encore.
Et qu'à dire de Marchessault? Rien?
Rien de Marchessault non plus.
Et Marchessault disait, après, justement hier, je crois, en point de presse, disait, tu sais, Price, non, il n'est pas dans nos têtes. On est capable de marquer contre lui, on l'a prouvé. Moi, j'aimerais ça marquer plus rapidement.
Ouais.
Mais clairement, Price, écoute, l'arrêt, le 2 contre 1, toc, il sort la jambière à gauche. C'est juste...
C'est une autre pièce d'anthologie.
Ça n'a aucun bon sens, Martin. Ça n'a aucun bon sens ce qu'il a fait ce soir. C'est spectaculaire.
Puis, écoute, Stone n'a pas marqué. Pacioretty n'est pas marqué encore. Dans cette série-là, Pietrangelo a 3 buts. 3 buts, là. C'est un défenseur. Théodore en a un. Martinez en a un.
Holden en a marqué un aussi.
Puis Holden en a marqué un. Fait que là, t'as actuellement, là, t'as 6 buts sur les 8 buts de marqués qui proviennent de défenseurs. Donc, c'est sûr qu'eux autres, ils doivent se poser des questions. Là. Il faut trouver une manière de marquer plus. Mais en même temps, ils vont regarder la vidéo et ils vont dire, OK, là, écoute, le 31,
le travail était fait là.
Il a volé lui. Il y a au moins, là, on peut dire, là, ce soir, sans trop se tromper. Là,
5 peut-être. Hein? 5 solides.
Moi, je calcule à peu près 10 d'opportunités, là, en comptant les poteaux, là, parce qu'il y a eu 10 d'opportunités, que ce soit sur un tir ou sur un retour de lancer, où c'est Price qui dit, tau, non, ça passe pas. Et ça, là, tu viens, c'est dur pour mentalement. Là.
Messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, puis je l'ai partagé avec Danny dans une pause publicitaire, là, probablement dans le dernier tiers de la troisième période. C'était 2-1 à ce moment-là, mais moi, je trouve pas que les Golden Knights payent suffisamment le prix. Mm-hmm. Tu sais, oui, ils ont des chances comme Danny a relevé, ils ont des 2-1, mais moi, je les aurais cru
plus
hargneux que ça, plus affamé, plus... tu sais, il y a
déterminé.
Quelques joueurs là, qui bataillent, là, mais c'est pas tout le monde.
Moi, j'ai l'impression que la brigade défensive fait vraiment un gros boulot pour les Golden Knights. C'est-à-dire, on est capable d'amener offensivement, on punit sévèrement les attaquants du Canadien avec de sérieuses mises en échec.
Ce soir, là.
Deux fois, là.
Suzuki a failli se ramasser à l'hôpital.
Lekkonen aussi s'est fait ramasser par McNabb, là, solidement. Donc, la brigade défensive fait le boulot. On amène notre apport offensivement. Mais tu as raison que les attaquants doivent en donner plus du côté des Golden Knights. On n'est pas, tu sais, puis Pacioretty, on sent la frustration. Marchessault, on sent la frustration.
Oui.
Stone, pas tant.
Hey, mais ils sont loin du filet, Jérémy.
Oui.
Ils sont loin du filet.
C'est vraiment, là, écoute, et tout ça fait que... Tout ça arrive à cause de Price. Faut pas de mentir, là.
Ce soir, c'est à cause de Price. Là.
Tout ça, pas mal souvent, là.
Mais ce soir.
Ce soir, il n'y a pas de match.
Ce soir, il l'a volé.
Hey, 43 tirs bloqués. Là, 43.
Je pense qu'on est là avec Price et le capitaine Weber au podium pour les questions des médias. On est prêt peut-être? Okay. Oui, on est prêt.
Great. Bonsoir, good evening. We're going to start the Montreal Canadiens post-game media availability with Shea Weber and Carey Price. We'll start taking questions. Eric Engels, go ahead.
Yeah, hi. This question is for Shea. Shea, you had a really good look at that hit that was thrown on Suzuki. What do you make of his heart, the way he bounced right back up and the way he had an impact on the end of this game?
Yeah, he's a competitor. I think we've learned a lot about him in a couple of years we've had him. He's not shy to physical play, to dig his nose in there. And obviously, he took a big hit, but I felt like it almost fired him up even more, and he came back and kept competing.
Jean-François Chamon. My question is for Shea. Shea, I know it's nothing new, but it might be strange to be talking about the guy next to you. But what can you say about Carey? The way he's been playing tonight, after 30 minutes, I think you were only having 5 shots and Carey was blocking everything on the other side.
Yeah, unbelievable. Obviously, a huge reason why we've been so successful, and no different tonight. I thought we weren't very good to start. Obviously, they made a point to have a good start, and they were definitely better than us. I thought we got better as the game went on, but without this guy beside us, we wouldn't have had a chance to do what we did tonight.
Josh Clipperton.
Hey, for either of you guys, it's been a topsy-turvy, up-and-down year for you. Can you just put today into perspective and into words with learning about your coach and then, you know, what all that happened tonight with the game?
I got it. It's been, like you said, it's been up and down this year, but I feel like we've always responded well to the adversity, and, you know, tonight wasn't just another example of that, and, you know, not having Dom behind the bench is just another, you know, twist that we're going to have to deal with, and, you know, I thought our assistant coaches did a great job of stepping up and doing a great job.
Stu Cowan.
Question for Carey. Carey, you've been with this team for a long time. It looks like something special is happening here. How can you describe what makes this team special?
We just don't quit. That's pretty much the easiest way to explain it. Like I said in the last question, we've gone through a lot of adversity and we keep responding well to it.
John Luke.
Question for both Shea and Carey, if you would just answer briefly, what was your reaction individually or as a team when you found out the news about Dom and that he wouldn't be behind the bench tonight?
I think this morning there was uncertainty because we didn't know if it was a false positive or what the circumstances was, and then obviously we got to the rink and we found out. But I think we're comfortable. Obviously it hurts to lose Dom. He's been great for us, but I think we're comfortable with Luke and Burr, and obviously Berkey came down and did a great job tonight as well.
We'll take a couple more for the guys. Jonathan Bernier.
Hello, guys. For either one of you on the same topic, was Dom present tonight by Zoom or something before the game or between the periods? Did he have a speech after the game or something?
Yeah, he talked to us before the game. We normally do a meeting before, and he spoke to us briefly and actually called and talked to us after the game as well.
Arpan Basu.
Hi, Shea. This one's for you. Obviously, Luke was running your bench on your end of the bench, at least. How did you find the adjustment of having Sean running the defense? Was it seamless, or did it take some getting used to?
He was good. Obviously, it's new for him, but I thought he did a great job. And and kind of working back and forth with him, we just had to communicate with each other, and we talked back and forth. I think we sorted things out, especially as we went along.
I'll take one more question for the guys. Disha Levitt.
Yeah, I want to ask, well, I guess more Shea, is it difficult as a player to play a game when you don't know if you're going to get the calls? I mean, there's a high stick there at the end on Barry that's not called. How do you walk that rope there where you're quite not sure what they're going to do?
That can't be our focus at all. I think our biggest thing is just playing, and that's where we're going to be successful. We can't look for things, we can't expect things, and just feel for pairs. Obviously, got a pretty big gash, but I think he'll be all right.
Thanks,
voilà donc pour Carey Price et Shea Weber. Je résume rapidement, Jérémy et Danny, là, sur la dernière question. On a demandé s'il y avait une certaine frustration parce qu'il y a des appels évidents qui n'ont pas été faits. On en parlait tantôt. Là. Perry, le visage ensanglanté avec un bâton, pas d'appel là-dessus. Fallait pas se surprendre de la réponse là, parce que Weber a dit simplement, ben, dans des situations comme celle-là, l'important, là, c'est le résultat final, c'est de gagner. On n'a pas énormément de contrôle sur ces situations-là. Les deux ont parlé de Dominique Ducharme. Dominique Ducharme a parlé virtuellement à ses joueurs avant le match. Là. Il est entré en contact avec eux. Il a également parlé à quelques joueurs à la fin, là, après la conclusion de la victoire. On a parlé des gars en place. Les deux ont salué le travail de Luke Richardson, qui a bien pris les choses derrière le banc. On a également parlé du travail de Sean Burke, qui s'est retrouvé responsable des défenseurs. Weber a dit on a eu une bonne communication et tout ça. Les choses se sont bien passées. Puis c'est vrai que les choses se sont bien passées, Danny et Jérémy. Je vous donnerai la parole là-dessus dans quelques instants. Puis il a été question du fait un peu spécial de cette équipe-là. Et c'est la confiance qui l'anime, mais en même temps, la détermination. Price a dit on a eu de l'adversité toute l'année. Il a répondu aux deux questions un peu de la même façon. Il dit on a passé à travers beaucoup de choses, puis on est plus fort maintenant. Il a répondu un peu la même chose, la même formulation pour la question concernant Dominique Ducharme. C'est souvent ce qu'il y a dans la bouche, d'ailleurs, des joueurs du Canadien. Notre équipe a passé à travers des épreuves cette année, des situations, que ce soit le changement d'entraîneur et tout ça, des séquences de défaites qui ont été frustrantes également. Et ils sont passés à travers et aujourd'hui, ils sont là à quelques heures d'un match numéro 4, en avant contre une équipe qui a été largement meilleure qu'eux en saison régulière. Vous voulez réagir, messieurs, sur les propos de Price et de Weber? Vous avez retenu quelque chose?
Vas-y, Danny, vas-y.
Ben, en fait, tu sais, ce que je retiens, c'est que les événements qui viennent de se produire avec la mauvaise sortie puis la victoire permet maintenant à l'équipe du Canadien de croire plus que jamais qu'ils peuvent éliminer les Golden Knights.
Ben oui, parce que là, tu gagnes là-bas, tu sais que tu peux jouer contre eux. Mais là, ce soir, parce un que match ça fait, qu'ils méritaient pas, puis ils l'ont pareil.
Parce que je veux dire, comme ça, là, ça fait deux matchs où, à un moment donné, là, on la voit la machine des Golden Knights. Ouais. On la voit, là. Mm. On l'a vu l'autre soir, les deux, les 3-0. Après, là, quand ça a clenché, là, c'était plus la même affaire. Ouais. Et ce soir, ils ont joué un très, très fort match. Honnêtement, là, t'es l'entraîneur, tu rentres dans la chambre, c'est la seule affaire que tu dis, les gars, on continue à jouer comme ça, on n'en parle pas.
Ça va arriver à un moment donné.
Mais ils ont été capables de la contrer, la machine.
Moi, je vais vous dire une chose.
Le rendu là, tout se pointe sur un individu, malheureusement, puis c'est Marc-André. Tu sais, à un moment donné, là, il faut ce qu'il faut. Là.
Juste vous dire, il y a de la frustration du côté des Golden Knights de Vegas. J'ai devant moi l'image qui passe en boucle de George McPhee, président des Golden Knights. Lorsque le Canadien marque, on voit l'image dans la loge, le monsieur, il n'est pas content. Il est frustré, puis il n'est pas content. Fait que donc, on sait qu'on devait gagner ce match-là du côté des Golden Knights, mais comme Danny l'a mentionné, il y a une petite magie présentement. Il y a quelque chose qui se passe avec le Canadien.
C'est clair. Et l'opportunisme, le gardien fait une erreur, elle se retrouve dans le filet. En période de prolongation, on dirait qu'ils ont peur de rien. Ils s'en vont, ils attaquent. Il n'y avait pas l'air d'une équipe qui jouait, excusez l'expression, qui jouait fessier. Là,
non, pas du tout.
En début de période de prolongation.
Non. Je trouve que la prolongation était meilleure.
On ferme
ça. Oui, t'as raison.
La prolongation était meilleure pour le Canadien que les trois périodes.
Tu as fait raison.
Oui. Dans quelques instants, il y a Philippe Dano et Josh Anderson, le héros de ce match-là, qui vont être disponibles aux médias. Le principal héros a été Carey Price, mais je reviens sur Josh Anderson parce qu'il n'a pas toujours été récompensé pour ses efforts. Mm. Son premier but date de la série contre les Leafs, ça faisait longtemps, mais c'est pas un gars qui a arrêté pour autant de faire des efforts. Il ne les faisait pas toujours de la bonne façon, mais il les faisait. Puis ce soir, ben, ça a payé. C'est deux buts où sa détermination lui a permis de finir le travail parce que, puis encore une fois, Paul Byron, qui n'est jamais bien ben loin quand il arrive un but important pour cette équipe-là, un dénouement heureux, il y a toujours l'incroyable Paul, pas tellement loin.
Oui. Et honnêtement, là, tu regardes le jeu qui donne la victoire aux Canadiens, là, c'est un... c'est pratiquement un dégagement.
Oui, oui.
C'est un lob.
C'est de la combativité.
Puis là, les joueurs sont là. Puis c'est les deux patineurs les plus rapides du Canadien qui récupèrent la rondelle.
En ligne droite.
Là, c'est vrai que c'est bonne nuit Las Vegas. Les autres sont partis.
Oui.
Là.
Absolument. Ouais. Absolument.
Et le Canadien vient d'envoyer une image qui est fort intéressante sur les réseaux sociaux avec une portion, on voit les entraîneurs qui sont là pour remplacer Dominique Ducharme, qui sautent dans les bras, qui sont extrêmement heureux, et Canadiens qui marquent juste pour Dom.
Pour Dominique. On va écouter Josh Anderson et Philippe Dano qui sont au podium pour répondre aux questions des médias. Écoutons-les.
I guess for Josh, obviously an emotional day right from the beginning, right to the end with the big goal. Can you just sort of describe the feelings from finding out Dom Ducharme wouldn't be there tonight, right through to the end tonight?
Yeah, obviously it was very difficult. You never want to see that situation. And I think most of us were pretty confused too with, you know, us staying in such a tight bubble and not us, like, going anywhere outside. So we miss him tonight, but, you know, we had him on Zoom before the game and we can hear what he had to say and everything like that. So obviously when you lose your head coach, it's obviously very tough, but tonight we found a way to win.
Hey Josh, we don't see that often. I mean, a guy scoring the tying goal late in the game and then had another one in the OT. How did you feel? What kind of emotion did you went through tonight after those two goals?
Yeah, you know, we had a press, you know, late in the third period there, and obviously we got a fortunate bounce on the tying goal. And then in OT, it looked like we had a lot more energy than them. We came out hard and you know, found a way to win the hockey game. And you can just see the compete level throughout our lineup was right there. And like I said, we found a way tonight in a huge game that we needed to win.
Eric Engels.
Sorry, Phil. This question is also for Josh.
No problem. It's a pleasure.
Josh, you know, you've played for a different team and you come here and obviously you played against Carey Price before. You've seen what he could do at his best. But where does this performance rank for you in terms of what you've seen from a goaltender, what you've played in front of, to give you that opportunity to score those two goals at the end and win the game?
Yeah, I mean, you guys all saw it tonight. It was incredible. Not only to watch him, you know, play like that, but for the fans too. And he kept us in the game all game, and we wouldn't be sitting here talking about this without him. So he made some crucial saves that really kept us in the game and gave us the opportunity to win tonight.
Jean-François Chaumont.
Salut Philippe, je vais y aller une question pour toi. Écoute, on a souvent parlé du caractère du Canadien cette saison. Aujourd'hui, c'en est probablement une belle preuve. Vous apprenez que Dominique ne sera pas derrière le banc. Au tir au but, je crois que c'est 25-5 pour Vegas, mais vous trouvez une autre façon de gagner. Comment tu décrirais la journée dans l'ensemble?
Honnêtement, la journée, je te décrirais ça comme probablement toute l'année. Le vent d'en face, mais on trouve une façon, malgré tout ce qui se passe, de jouer en équipe, de grinder, puis d'aller chercher une grosse win. Puis écoute, c'était vraiment l'image de toute l'année au complet. Là.
Martin McGuire.
J'en ai une deuxième pour toi, Philippe. La trouves-tu spéciale, ton équipe? Tes voix?
Oui, vraiment. Mon équipe est spéciale. Puis je suis vraiment choyé d'être ici, puis de pouvoir batailler avec eux autres à chaque soir. On se donne une chance à tous les matchs. On a trouvé notre swag en playoff. C'est beau à voir, puis on a du fun. Tout le monde est tight, on a un maudit bon groupe. Puis très fier de jouer pour ce groupe-là.
John Liu.
Question for Josh. Josh, would you consider this game kind of a breakthrough effort for your line when you include Jesperi and Paul, your collective contributions offensively, but also in the process of this game itself?
Yeah, I think so. I think we can, you know, take some confidence out of this game. Obviously, you know, it's not the start that we wanted, you know, in the first couple periods. But you know, When everything was going tough, we just tried to be physical and get on the forecheck as much as we can. And, you know, you started to see that more later in the third period. And then, obviously, in overtime, you know, we were all over them. I thought they were tired, and that was the key to our success.
Josh Clipperton.
Hey, Josh, you know, you guys have had lots of ups and downs, twists and turns. The way today played out, was it you guys were just like, no, this is just more of the same, just get at it?
Yeah, I mean, I think so. We knew that coming into this game, it was going to be crucial, you know, to get ahead in the series. And like I said, again, we didn't come out the way we wanted to, but we found a way to win. And it was a full team effort from everyone tonight.
We'll take a couple more for Josh and Phil. Richard Labbé.
L'essentiel des commentaires de Philippe Dano et de Josh Anderson. Messieurs, on a parlé de toutes sortes de choses. On a parlé de Carey Price. Anderson a parlé de la performance de Carey Price qui donne à cette équipe-là la chance d'espérer à chaque fois, chaque soir, la confiance. Philippe Dano a parlé d'un groupe serré, un groupe tissé serré actuellement qui passe à travers beaucoup de périodes. Le vent d'en face, comme
ça, je retiens ça. C'est ce que j'ai pris en note.
Québécois, là,
le vent d'en face.
Image. Exact.
Ouais. Parce qu'on lui demandait de réagir, bon, évidemment, à cette journée-là qui a été extrêmement difficile avec Dominique Ducharme et tout ça. C'est perturbant là, autour d'une équipe de hockey. Là, tu sais, ton coach n'est pas là, puis tout ce que ça peut causer. Mais bon, ben, ils ont réussi à tirer le meilleur de ça.
Honnêtement, là, je sais que là, ça n'a pas de bon sens de parler de ça comme ça, là, mais je suis obligé de le dire, ça me brûle les lèvres. J'ai tellement hâte de voir ce qui va se passer dimanche, là, parce que, écoute...
Avec le gardien des Knights?
Ben oui, parce que là, t'es dans une position où, si tu le fais pas là, ça veut dire, OK,
ça veut dire que tu vis ou tu meurs avec lui.
Exact. On y va jusqu'au bout avec.
C'est ça.
Ou on prend la décision, puis là, on change le tempo. Et moi...
Parce que tu peux pas attendre d'avoir le dos au mur pour faire
non,
ça.
Ben non, parce que tu ne donnes pas de chance au gars que tu lances dans le filet. En tout cas, tu en donnes moins. Là.
Ouais.
Puis, ce que j'ai vu dans les dernières années, les équipes qui avaient deux gardiens et qui se retrouvaient dans cette position-là, les entraîneurs n'hésitaient pas de changer le rythme d'une série en utilisant un deuxième gardien.
Et que Leonard ne connaît pas connu de grands moments, s'est fait traverser 7-1 face à l'Avalanche Colorado.
Il n'a pas connu une bonne saison.
C'est clair.
Même le match par la suite n'était pas de la formation parce qu'on parlait peut-être d'une blessure. Fait que, tu sais,
c'est pas évident. Mais,
pas en business,
mais c'est pour ça que j'ai hâte de voir parce que j'ai pas d'indicateur. Mais l'indicateur que j'ai, je suis convaincu de ça, là, l'indicateur que j'ai, c'est à moins d'avoir un gardien de but qui est hyper dominant, là, je regarde les Capitals de Washington, ils ont gagné la Coupe, ils ont utilisé leurs deux gardiens.
Ouais.
Moi, c'est venu me chercher.
La dernière Coupe que Chicago a gagnée, ils avaient utilisé leurs deux gardiens aussi.
C'est que tu vois ça
Crawford
souvent.
Avait fini le travail. Mais,
tu vois ça souvent. Ouais. Tu sais qu'à un moment donné, l'entraîneur dit, bon, là, il faut changer le tempo.
Ouais.
Visiblement, Marc-André, il n'est pas à l'aise. Là. Tu sais, c'est un gardien élite dans la Ligue nationale.
Il y a quelque chose qui le dérange.
Là, écoute, ces chiffres, c'est pas ça du tout. Là. C'est en chute libre là, face aux Canadiens. Écoute, il a commencé les séries, il était à 940 kecs, il est rendu à 911.
Ouais.
Tu sais, à un moment donné, il y a un indicateur. Là. C'est parce que ça ne marche pas. Là. C'est pas... Il y a de la difficulté contre le Canadien, c'est tout. Ça arrive, puis moi, je pense que ça va devenir très, très, très pesant dans l'entourage de l'équipe.
Bien sûr.
De prendre cette décision-là. Parce que, écoute, c'est un joueur qui est populaire. T'es bien mieux de faire ça sur la route si tu veux le changer. Je te le dis tout de suite.
Mais
là,
je fais confiance à Peter DeBoer, messieurs, parce que c'est pas son homme. Puis quand il est arrivé derrière le banc, là, là-bas... C'est Lehner qui a pris la pause. Mmh. Puis là, Lehner a une saison au croche parce que je pense que Lehner, là, sur le plan psychologique, il a été dérangé par la COVID, par l'isolation des joueurs et tout ça. Là, on est en série. Là. Puis moi, je pense que DeBoer, il sent qu'il doit rien à Marc-André Fleury. Puis il a envoyé ce message-là dès qu'il est arrivé. Alors moi, je pense que s'il décide de faire le changement, il va le faire. Messieurs, on est là avec l'entraîneur chef maintenant. Luke Richardson qui remplace Dominique Ducharme.
Coach, just can you take us through what today was like for you when you found out, and just sort of a rundown on what you went through to get to this point?
Yeah, thank you, Stu. It was an exciting day. Lots going on for sure. We meet in the morning as coaches, as we always do, and unfortunately, Graham, our medical trainer, came in and informed us what was going on. So Dom had to pack up and leave, and that's the protocol, obviously, of our situation here this year. So we started working right away. You know, the Alex, myself, and Burge was a big part of it in there, and then bringing Sean, in from upstairs down onto the bench is an easy call. We had him there at the end of the year, so he knows how it was working, and he's got a lot of experience. So, I think things went fast, and maybe that's better off. We didn't have too much time to think about it. We just were running things the way Dom runs it here, and business as usual.
Jean-François Chaumont.
Hi, Luke. I'm just curious to know, I can guess that you've been speaking with Dom over the phone during the day. If it's the case, what was the main message from Dom to you? And at the end of the game, I think you touched your heart. Was it for Dom? Was it a way to think about Dom?
You know, Dom had spoken with the players before the game and quickly after the game. And the guys obviously were thrilled for him. I'm sure he's had lots on his mind over the course of the day. It's a difficult year for everybody, and this is a supposed to be a special time for Dom. So we're feeling for him for missing it, and we know how much he's put into it at the end of the year. So, you know, it was great to hear his voice, and the players really responded obviously tonight for him, and even after, we're very excited for him to hear his voice and to share that celebration with him. So. We kept in contact all day on little details and even in between periods, just a few details as we always do and share our ideas together in the coaches' room.
Eric Engels.
Luke, whenever you hear Nick Suzuki's name, you think cerebral player, skill, talent, vision. What can you say about his character?
Yeah, you know, he's a sneaky physical guy out there and obviously to go along with all those other great names that you described him as and as a hockey player. And, you know, I think this is a time of the year that you see him rise. You know, he did it last year in the bubble in Toronto, and he's doing it again this year. He's a big game player. He loves competition, and he excels in all areas. So it's great to watch him play. I have a lot of confidence in him, in all areas of the game, whether it be special teams or face-offs or just five-on-five play. He's a dynamic player, and we were, very lucky to have him.
Luc Gélina.
Thank you, Sam. Luke, last year you had to deal with a situation like that, not the same thing, but something similar with Claude Julien. You and Kirk, you had to run the bench. So maybe communication-wise or preparation, were you more prepared for a kind of situation like that this year after what happened in the bubble last year?
Yeah, I don't think we ever prepare for it, but I think you're right. Last year was definitely thrown for a loop in the middle of a playoff series. So, that's just I think we reacted very well today. And I know it was busy, and things sometimes seem scrambly when it's busy, but I thought we handled it well, and we were very organized, and I think the players responded to that. So that's the main objective.
Martin McGuire.
Hi, Luke. Just want to know from yourself, how good is it to have a special guy like Carey Price who make things like that happen even after a tough day like that for your team?
Yeah, he's been great, obviously, all playoffs, and the whole team counts on him a lot. I think maybe the first part of the game we counted on him a little too much, but I thought we got better as the game went along, and he gives us that stability to do that. And, obviously, as much as we're playing for each other, everybody really knows that how special of a goaltender and a person he is back there behind us, that, they really play hard in front of him.
Josh Clipperton.
Hey, Luke, I'm sure you've thought about or dreamed about what it would be like to be an NHL head coach. Didn't want to probably have it come this way, I'm sure. But what was it like in that moment? And obviously celebrating with Alex on the bench, just lots of emotions.
Yeah, so proud of the guys and happy for the guys. And, kind of a relief for Dom and his situation. So, I I guess I would have thought my first chance running an NHL bench would be an exhibition game, but it happened to be in a third round of the Stanley Cup playoffs in overtime, so it's pretty exciting. And, you know, we're just hoping to keep this thing going and we get the whole group back together.
Take a couple more for Coach Alexis Bélanger-Champagne.
Merci. Luke, you touched on it a little bit. The first part of the game was not as you probably would have hoped. Just Vegas had talked a lot about improving their start. What were the things they did maybe that caused problem, especially with the cohesion in the transition game early on?
Yeah, we heard, you know what they said in the media-wise about coming out harder and having a better start, and I think they did, and, you know, you got to give them credit for that. I thought, you know, on the most part, I know the shot clock was lopsided, but I thought we did a good job of keeping things to the outside and you know, didn't give up too many grade-A chances, and when we did, Carey is there like he always is, and it gave us a chance to build our game, and I thought we got better as we went along, and our best part of the game was an overtime, and you know that that's just the way our team is built, especially with Carey back there. It'll give us a chance to do that in some games, but we don't want to make a habit of it.